E-Radio, l'invité de la rédaction.
Dans les régions et les villes de l'Union européenne, la population féminine n'est présente qu'à hauteur d'un tiers parmi les décideurs politiques. Quels sont aujourd'hui les enjeux et les bonnes pratiques qui peuvent favoriser les stratégies attentives à la dimension de genre et qui soient susceptibles de contribuer à préparer le terrain pour que les femmes soient plus nombreuses à entrer en politique, mais aussi à assumer des fonctions dirigeantes. Pour en parler aujourd'hui, Euradio reçoit Gwendoline Delbos-Cortfield. Merci d'être avec nous. Vous êtes députée européenne française du groupe des Verts, membre de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres au Parlement européen. En tant qu'eurodéputée, justement, quel constat vous faites concernant la présence des femmes dans le monde politique? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Évidemment, en apparence, on a fait pas mal de progrès. Le Parlement européen est un représentant bon élève. Hein. C'est un des parlements les plus féminisés même du monde. On est à peu près maintenant à 40% de femmes. Ça peut changer aux prochaines élections parce qu'on n'a pour l'instant pas d'obligation au niveau des élections. Donc il y a des pays où il y a des quotas, il y a des pays où il y a de la parité comme en France, mais il y a des pays où il n'y a absolument aucune obligation. Hein. En Autriche, vous pouvez présenter aux élections européennes 100% d'hommes. Pardon. Et du coup, il y a un risque qu'on reperde ce chiffre, mais aujourd'hui, c'est un des parlements les plus féminisés. On a aussi de plus en plus de parlements féminisés dans l'Union européenne, on a de plus en plus de femmes ministres. À l'échelon local, on a beaucoup de femmes impliquées, donc on a en apparence une représentation de plus en plus importante. Après, ce qui est toujours intéressant pour nous féministes et dans le but d'avoir un vrai travail partagé entre les genres et une vraie puissance partagée, on pourrait même dire, c'est évidemment la question de après qui a quel portefeuille et qui fait quoi. Là, il y a encore d'énormes différences, même au Parlement européen. Là où va l'argent, ça n'est pas là où sont les femmes sur les postes. Pour l'instant, là où va l'argent, ce sont les hommes, les grands dossiers énergie, les grands dossiers climat, les grands dossiers agriculture, les grands dossiers industriels. Donc il y a une différence entre la pure représentation qui s'améliore de plus en plus et après aussi comment on s'empare des dossiers.
Parce qu'on a tout de même une présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, une présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Malgré tout, au sein du Parlement européen, peu de femmes sont à la tête de commissions.
Alors oui, on a une présidence du Parlement européen, on a une présidente de l'Union européenne. D'abord, dans les deux cas, ce sont des femmes fortes, donc je ne me permettrai pas de les critiquer elles directement. En revanche, en plus, par ailleurs, la représentation, ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'il faut quand même aussi des femmes qui veulent faire un leadership féministe et qui veulent avoir la perspective de genre, sinon ça ne sert à rien. Si on a des femmes qui reproduisent le patriarcat, on a aujourd'hui au Parlement européen et malheureusement de plus en plus dans l'Union européenne des femmes qui tiennent un discours extrêmement patriarcal à l'extrême droite notamment et qui vraiment disent que le rôle des femmes c'est de faire des enfants, c'est de surtout pas demander plus d'égalité, etc., etc., d'avoir un choix qui est le choix de rester à la maison. Donc ça c'est la première différence. Et ensuite effectivement, Roberta Metsola, la présidente du Parlement et Ursula von der Leyen, présidente de l'Union européenne, c'est un petit peu aussi parfois, ça cache un petit peu la forêt, puisque non, les présidences de commission sont beaucoup des hommes, et encore une fois, les grands rapporteurs, les grands rôles sont beaucoup, beaucoup des hommes. Donc là, on a encore beaucoup plus d'équité à trouver, de parité à trouver. Et au sein même des commissions, au Parlement européen, par exemple, la commission AFCO, Affaires constitutionnelles, celle qui s'occupe précisément du futur de l'Union européenne, de comment fonctionne la démocratie, des règles qu'on se met en interne, et bien c'est une commission qui est à 80% plus masculine. La commission FEM, égalité de genre, droits des femmes, est une commission qui a plus de 80% femmes. Là, on a les deux opposés, mais ça va être aussi, on va avoir très peu de femmes en agri, on va avoir très peu de femmes dans un certain nombre de commissions, pêche, voilà, et plus de femmes en emploi, en libé. Donc, c'est bien une question encore aujourd'hui de comment on partage mieux le travail.
Au-delà de la pure présence des femmes dans la politique, où est-ce qu'on en est de la prise en compte des femmes, justement, dans l'élaboration même des politiques publiques?
Ça, on en est évidemment au tout début. Ça fait un long moment que l'Union européenne, dans ses textes, à la fois dans ses textes fondateurs comme les traités, la Charte des droits fondamentaux, etc., et même dans tout ce qu'elle écrit, ce qu'elle publie, que ce soit la Commission ou le Parlement, et même le Conseil, utilise les mots de genre, utilise les mots même de gender swimming, donc l'idée d'effectivement avoir une perspective de genre sur tout et tout, c'est absolument pour l'instant pas effectif encore, loin d'être effectif. Donc c'est ça la question, hein. Effectivement, cette année, on a fait un gros travail, par exemple, sur le Parlement. Cette année, ce mandat, on a fait un gros travail durant les 5 ans, effectivement, d'obtenir des données et d'avoir une vision un peu plus claire de, justement, qui gère les dossiers, parce que pour avoir de la perspective de genre, il faut qu'il y ait des gens qui aient conscience de cette perspective de genre, donc soit des hommes féministes, soit des femmes féministes. Et après, effectivement, comment on met de la perspective de genre, effectivement, dans les questions économiques, les questions énergie, les questions agriculture, etc. Et ça, on en est très, très, très loin encore. Un des exemples que j'utilise souvent et qui est le plus pertinent sur ce mandat, c'est que quand on a imaginé au niveau européen les fameux plans de relance après la Covid et pour aider les pays à retrouver une économie qui va mieux, il y a donc eu ces fameux plans de relance et on avait vraiment beaucoup poussé au Parlement européen à ce que ces plans de relance aient une perspective de genre. Ça n'a absolument pas été le cas et donc tout l'argent, c'est beaucoup d'argent public qui va aller investir des secteurs qui sont à 70-80% des secteurs où c'est des hommes qui travaillent, masculins, absolument rien pour le care, par exemple, le secteur du care qui avait pourtant été si utile pendant la pandémie. Et par contre, les secteurs de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, de la mobilité, du transport, etc., qui sont des secteurs importants, de l'aéronautique et des secteurs, du coup, où il y a beaucoup, beaucoup d'hommes qui travaillent. Donc, d'un côté, il faut qu'on pousse plus de femmes à travailler dans ces domaines-là, mais il faut aussi qu'on ait en tête que quand on dépense de l'argent public, ben, on devrait avoir en tête que cet argent public il soit mieux réparti dans les investissements qu'on fait auprès des citoyennes et des citoyens.
D'après vous, quels sont les freins qui existent aujourd'hui et qui nous empêchent d'atteindre cette égalité ? Est-ce que ce sont des freins qui sont surtout sociaux ?
Alors, le plus grand frein, à mon sens, aujourd'hui, il y a bien sûr, encore une fois, un backlash qui vient de l'extrême droite. Et eux, ils sont en train de construire un récit qui est très travaillé, très dur, et qui veut vraiment remettre les femmes à leur place, par la voix de femmes elles-mêmes en plus. Mais c'est en fait pas si important. Ils sont très bien organisés, mais ils sont pas si nombreux. Et quand on interroge nos sociétés sont bien plus féministes qu'elles ne l'étaient il y a des années en arrière, des décennies en arrière, de même qu'elles sont beaucoup moins homophobes, moins racistes, etc. Mais on a une tendance à penser que parce qu'on a tout écrit dans nos textes, qu'effectivement l'Union européenne s'est construite sur un texte qui dit dès le départ droit des femmes, égalité des femmes, comme on l'a écrit dans tous les textes des pays de l'Union européenne, et qu'on parle tout le temps d'égalité, on pense que c'est effectif. Il y a une immense différence entre l'égalité qu'on a écrite et l'égalité effective. Aujourd'hui, on est très loin de l'égalité effective. Et pour ça, il faut du boulot, il faut des quotas, il faut les données dont je parlais, il faut avoir conscience. Beaucoup de mes collègues découvrent tout d'un coup, ah bon, mais en agri, il n'y a jamais de femmes qui parlent en agriculture. Ah, mais il n'y a jamais de femmes qui travaillent sur ces sujets-là. Il n'y a jamais de femmes qui sont dans les grandes gouvernances de grandes entreprises d'énergie, etc., etc. Donc ça, c'est une découverte à faire. Il faut le comprendre, il faut avoir les données. Et après, il faut accepter qu'on va passer parfois par des contraintes, qu'on va passer par de la législation, qu'on va passer par des quotas, le mot qui fait très, très peur, et que beaucoup de gens détestent. Donc, pour avoir de l'égalité dans les mots, tout le monde est toujours d'accord, mais quand il faut avoir de l'égalité effective et que ça passe par des contraintes et de la législation, c'est toujours bien, bien plus difficile, mais c'est ça par quoi il faut passer, et voilà, c'est le passage de l'égalité dans les textes à l'égalité effective.
On se rencontre donc ici au sommet européen des régions et des villes. Quel est le rôle, justement, la place des villes et des régions dans la recherche de cette égalité à l'échelle de l'Europe ? Est-ce que l'échelon local est important ?
Alors oui, bien entendu, de toute manière, étant une démocrate européenne convaincue, étant fédéraliste, pour moi c'est même les deux échelons qui font sens. Je pense que les grands enjeux de demain, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient de migration, qu'ils soient sociaux, parce que la grande précarité sociale et les grandes questions sociétales, elles vont se gérer au niveau des villes et des régions et au niveau européen. Nous, on met en place les grands cadres au niveau européen. C'est la législation, de grands plans. Et puis après, c'est dans les villes et dans les régions que les choses se mettent concrètement en place à travers les États membres. Et aujourd'hui, on a besoin qu'effectivement, dans ces villes et dans ces régions, on pense tout ça. Quand une ville ou une région met en place une politique climatique pour lutter contre le dérèglement climatique, si elle ne prend pas en compte la perspective de genre, elle va créer une injustice supplémentaire auprès des femmes qui sont en plus pas celles qui depuis des années ont consommé le plus, qui depuis des années ont pollué le plus. Les femmes n'ont pas, on peut participer à la pollution, et pourtant si on n'a pas des politiques qui sont adaptées, on aura, encore une fois, c'est sur elles que vont retomber le poids de tout ça, la précarité énergétique, c'est les femmes qui le vivent le plus, etc. Donc penser la perspective de genre quand on met en place une politique au niveau d'une ville ou d'une région, c'est extrêmement important, qu'elle soit dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine énergétique, dans le domaine de la biodiversité, même tous les domaines, l'agriculture. Et donc c'est vraiment eux qui doivent, quand ils font les choses concrètes qui vont se faire sur le terrain, il faut qu'ils pensent cette perspective de genre. Donc ça ne suffit pas que nous, on l'a décrété au niveau européen. Donc c'est cet échelon-là est essentiel.
Merci Gwendoline Delbos-Cortefiel. Vous êtes, je le rappelle, députée européenne française du groupe des Verts et vous êtes membre de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres au Parlement européen. Merci d'avoir pris le temps de répondre aux questions de radio.
E-Radio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur eradio.fr.